Every day. Anywhere. Anytime. A digital guestbook channel. Ebenezer International. Your station.
Vous écoutez Salvatopod sur la RCE. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Ce m'est un grand plaisir que de vous compter des nôtres à l'heure de ce nouveau numéro de Salvatopod, le programme du pasteur Gérard Payon. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude de suivre cette émission, sachez bien qu'il s'agit d'un coin spécial réservé au ministère du pasteur et aumônier de prison Gérard Payon, dans lequel il nous fait partager des réflexions sur des sujets très variés. Dans son intervention aujourd'hui, il va nous parler de la vérité. Mais juste avant de l'accueillir, je vais vous proposer un titre très spécial d'une chorale gospel que nous vous présenterons dans une prochaine édition de Gospel Plus. Il s'agit de la chorale Gospel Dream. D'ores et déjà, je vous souhaite une agréable écoute. Ladies and gentlemen, I greet you and welcome you on the Digital Gospel Journal, the Radio Ebenezer International. It's a great joy to know that you are listening to this radio station, whose main goal is to feed your soul with good spiritual food. Wherever you are listening, don't forget to tell all your friends and relatives to join us at www.radioeben-ezerinternational.com. www.radioeben-ezerinternational.com. Be free to visit our podcast site where you can download any episode that you want. You can also share our links to your friends and place our widget on your profile, either on Facebook, MySpace, Twitter, anywhere you want. It's a new edition of Salvatopod, where we will welcome the pastor Gérard Payon and God's word for our soul today. Stay in there in peace. Ciao ciao e benvenuti a voi tutti, fedeli amici ascoltatori. Sono molto felice di sapere che voi siete ancora qui per trascorrere insieme a noi questo momento di costruzione spirituale. Malgrado il fatto che sia in francese, penso che sia molto interessante, soprattutto per quelli cui piacerebbe scoprire un poco più il mondo francofono. Ho la certezza che i belli canzoni che vi abbiamo scelto vi faranno molto piacere. Sono Frank Doristil, il vostro amico pastore per la Radio Cristiana Ebenezer International dalla Francia. Et oui, chers amis à l'écoute, avant d'écouter le pasteur Payon, je vous propose, comme annoncé, ce morceau de la chorale Gospel Dream. J'en profite pour saluer tous les membres et tous les responsables de cette chorale que nous accueillerons d'ici peu dans l'émission Gospel Plus. Vous écoutez Salvatopod.
Courage, my soul, and let us journey on. Though the night is dark, it won't be very long. Yeah. Thanks be to God, the morning light appears. I know the sun is passing over. Courage, my soul. Let us all
Thank you.
Gospel Dream, The Storm is Passing. Un grand merci à cette chorale que nous aurons le plaisir d'accueillir dans Gospel Plus. Et c'est maintenant le moment de céder l'antenne au pasteur et aumônier de prison Gérard Payon dans sa réflexion autour de la vérité. Je lui dis bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio chrétienne Ebenezer International.
Bonjour amis auditeurs. Nous vivons dans un monde où pullulent les idéologies, les systèmes prétendant être véridiques. Ils voudraient nous entraîner à leur suite, faire de nous leurs disciples. Certains plus modestes disent que chaque mouvement contient une parcelle de vérité et qu'en faisant un amalgame, une synthèse de ces divers enseignements, on obtiendra une somme de connaissances universelles, nous évitant de sombrer dans le fanatisme, le fondamentalisme. Cette théorie est séduisante. Elle a donné naissance à un mouvement qui s'appelle le bahaïsme. Mais le syncrétisme est-il vraiment la solution? La réponse à notre soif de vérité? Bien sûr, le menteur et le père du mensonge voudraient nous berner. Ils désirent nous voir emprunter de fausses pistes afin de nous diriger dans une fausse sécurité. Il n'est pas opposé au système religieux, je dirais même qu'il se frotte les mains devant la multiplicité de mouvements et d'idéologies de religions contenant quelques parcelles de vérité. Il introduira dans la pâte, avant qu'elle ne lève, quelques grammes de poison, lequel fera son travail d'empoisonnement de l'ensemble. Ce poison est inodore, incolore, mais pas insipide. Au contraire, il donnera à l'ensemble un goût agréable, afin que les consommateurs le dégustent avec délectation. Certains théologiens populaires comparent les diverses religions à plusieurs sentiers, gravissant la même montagne sur des versants différents, mais se retrouvant au sommet dans la présence de Dieu. Dans un sens, il y a une part de vrai dans ce schéma, mais ce ne sont que des sentiers divers qui peuvent conduire à Jésus. Le Coran parle de Jésus abondamment. L'Ancien Testament l'annonce avec une telle profusion de prophéties, en particulier quand on lit les Ésaïe chapitre 53, que des Juifs pratiquants ont été conduits à trouver en Jésus le Messie annoncé. Mais sur ce sommet, pour rejoindre le Père, il n'y a plus qu'un seul chemin. C'est justement Jésus lui-même. Il l'a proclamé et il l'a prouvé lorsqu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Cette affirmation à Thomas, mais aussi aux autres disciples et à l'humanité entière, est encore actuelle. Pourtant, nous sommes comme le gouverneur romain Pilate, confrontés à celui qu'il doit juger, lequel vient de lui parler de vérité. Il l'interrogera « Qu'est-ce que la vérité ? » La vérité existe-t-elle vraiment dans le monde ? Lorsque l'enfant grandit, lui révèle-t-on le processus merveilleux utilisé par le Créateur pour qu'il puisse venir au monde ? Des légendes plus farfelues les unes que les autres bourrent son crâne réceptif et faussent en lui l'idée de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Certaines menaces où le diable est dépeint comme fourchu entouré de ses sujets, comme la célébration d'Halloween en répand les caricatures diaboliques, conduiront l'enfant à rire de cela et même à nier la réalité de ces personnages maléfiques. L'appellation même de bon Dieu, si loin des descriptions des malheurs du monde, catastrophes, épidémies, accidents, meurtriers, l'amèneront à rejeter un tel Dieu. Les interprétations libres des textes bibliques ou la chute et d'avoir croqué la pomme, avec la connotation sexuelle que cette expression représente, le grand poisson de Jonas devenu une baleine, alors que celle-ci, pourvue de fanons, ne peut qu'ingurgiter des petits poissons, la digue sur laquelle Jésus se serait aventuré pour rejoindre les disciples dans la barque, secouée par une mer en furie, autant d'applications sans fondement qui influencent le jugement de l'enfant. Celui-ci, en contact avec d'autres, grandit, s'instruit, questionne, lit et se rend compte qu'il a été dupé, trompé. Sa tête est pleine de conceptions erronées. Ceux en qui il se confiait lui ont enseigné des fables. Ces légendes qui ne lui ont pas été présentées comme telles ont pétri sa jeune cervelle perméable. L'enfant mettra peut-être dans le même sac le Père Noël et Dieu et il bannira de sa vie l'un et l'autre. On a donc enseigné à l'enfant qu'il y avait un bon Dieu. On a omis de lui dire que l'homme était mauvais, et ce contact avec la misère, la cruauté, la mort, le mal sous toutes ses formes le révolte. Il méprise l'enseignement reçu et déclare « Il n'y a point de Dieu ». A-t-il tort ? Non. Pourquoi direz-vous ? Parce qu'en effet, le Dieu qu'on lui a décrit, ce bon Dieu n'existe pas. Cela veut-il dire que Dieu n'existe pas ? Écoutons ce que l'écrivain soviétique Tolstoï a écrit. Si la pensée t'aborde que toutes les pensées que tu as eues sur Dieu sont fausses et qu'il n'y a pas de Dieu, ne t'en étonne pas. Cela arrive à tous. Mais ne crois pas que ton incrédulité provient de ce qu'il n'y aurait pas de Dieu. Si tu ne crois plus au Dieu auquel tu croyais précédemment, c'est simplement parce qu'il y avait dans ta croyance quelque chose de faux. Il s'agit donc pour toi de mieux comprendre ce que tu veux dire en prononçant le nom de Dieu. Quand un sauvage cesse de croire en son Dieu de bois ou de pierre, cela ne prouve pas qu'il n'y a pas de Dieu, mais seulement que Dieu n'est pas fait de bois ou de pierre. Le Dieu de la Bible, celui qui se révèle dans sa parole, cette parole qui est la vérité, c'est celui qui répond aux aspirations du cœur humain, du savant comme de l'homme simple. Peut-être êtes-vous au même point que Pilate face à Jésus, qu'on lui demande de juger, de condamner à mort, celui dont la sentence est hurlée par mille bouches, « Hôte, hôte, crucifie !» Avec amertume, ironie, lassitude, ou peut-être avec une soif impérieuse, profonde, salutaire, vous dites « Qu'est-ce que la vérité? Où est la vérité? Existe-t-elle vraiment ?» Tous les jours, je côtoie mes semblables. Tous pensent différemment, tous ont leur point de vue, différentes philosophies, différentes explications sur les grands problèmes de la vie, des solutions qui paraissent logiques, fondées sur « Où donc est la vérité ? » Est-ce le mélange de toutes ces philosophies ? C'est trop compliqué, je préfère me cantonner dans ma propre conception de la vérité. Je préfère me fier à mon intelligence, à ma raison. Et vous faites de celle-ci une déesse, la grande déesse raison que Robespierre avait placée dans l'église Notre-Dame de Paris. Êtes-vous satisfait ? Vous avancez dans la vie insouciant ? Mais, au fait, êtes-vous vraiment insouciant ? Êtes-vous capable de rester des heures dans le silence sans rien faire ? Bien sûr, vous me direz, vous ne pouvez vous permettre de ne rien faire. Mais après votre travail, après vos études, lorsque vous avez quelques moments de répit, avez-vous le courage de penser à l'éternité ? Si oui, il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas satisfait de votre conception, de votre idéologie, de votre morale, de votre religion même. Cela vous a amené à vous poser la question, qu'est-ce que la vérité ? Sur quoi puis-je m'appuyer avec confiance, avec conviction, avec fermeté ? Sur la fortune ? Sur mon épouse, sur mes enfants, sur ma santé, sur ma réussite professionnelle ? Trouvez-vous parmi les hommes un apaisement réel, indépendant des circonstances extérieures ? Trouverai-je vraiment la vérité parmi mes semblables, parmi ceux qui mentent dans leur commerce, ceux qui profitent de la faiblesse de l'âme ?
Les ténèbres envahissaient ma vie, j'étais aveuglé par le mensonge. Mais tout a changé lorsque je t'ai connu. Ma vie a été transformée et je voudrais crier que toi Jésus, tu es la lumière du monde. Si tu te retrouves dans les problèmes, ne perds pas espoir, Jésus est mort pour toi. Il veut transformer ta vie et te donner un avenir, parce que Jésus, tu es la lumière du monde, tu es le soleil. Par le mensonge, mais tu as envoyé ton fils, dont le nom est Jésus-Christ, pour nous éclairer la vie. Et maintenant nous sommes libres, parce que Jésus, tu es la lumière du monde. Tu es le soleil qui illumine ma vie. Oh Jésus, tu es la lumière du monde. Tu es le chemin, la vérité.
Jésus est venu dans ce monde de fausseté, ce monde de mensonges qualifié d'humain. Écoutons ce que le philosophe non-croyant Schopenhauer a écrit. Dire ce qui est vrai à la plupart des hommes est une manifestation de perversité. Ils tiennent à garder leur tare et leur misère. Ils les couvrent du mensonge comme d'un manteau que par devoir d'humanité on devrait leur laisser. Il faut être un méchant, pense-t-il, pour vouloir le leur arracher et mettre à nu cet échafaudage de fausseté. La Bible, bien avant ce philosophe et d'autres, révèle à l'homme ce qu'il est, corrompu, désespérément mauvais. Elle révèle qu'il est perdu parce qu'il est pécheur, ennemi de la vérité, parce qu'ennemi de Dieu. Heureusement qu'après avoir montré à l'homme son état lamentable, sans remède humain, Dieu pourvoit au remède, unique, indispensable, en envoyant son Fils dans notre humanité. Cette Bible affirmera, et Jésus, c'est lui qui le dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Il fallait que celui-ci se substitue aux coupables que nous sommes. La sainteté, la justice divine exigeait un prix exorbitant à la mesure de l'offensé, c'est-à-dire Dieu lui-même. Satan s'est rendu compte du danger représenté par l'incarnation du Fils unique de Dieu. Il se rappelait la promesse faite sur le lieu de la chute aux humains coupables. La postérité de la femme t'écrasera la tête après que tu lui aies blessé le talon. Cette victoire annoncée en Éden, confirmée par les chœurs angéliques motivant les bergers de Bethléem à aller adorer le prince héritier couché dans une crèche, cette annonce va pousser le meurtrier à inspirer Hérode pour des pensées assassines. Le massacre des innocents des montagnes de Judée a pour but de ne pas laisser vivre celui qui deviendrait le rédempteur, le sauveur des hommes.
Salvatopod, notre pause musicale sera assurée par l'artiste Patricia Andrian pour la première fois sur nos ondes.
Il est difficile d'aimer.
Bonne écoute à toutes et à
tous. Il est difficile de pardonner si l'amertume est nous empêche d'avancer. Il est difficile de croire celui que l'on ne voit pas. Quand nous vient le désespoir, c'est vers lui qu'on tourne les yeux. Je ressens ton souffle, je ressens ton au-delà. Cette paix que tu me procures, elle me vient bien de toi. Je vis éloigné de toi. Pardonne-nous, notre Père. Pardonne-nous encore une fois. Il est difficile de marcher. Il est difficile d'abandonner ces petites choses qui nous plaisent. Forcément sa volonté. Il est difficile de déposer nos fardeaux, nos iniquités. Sans empêche d'avancer. Il est difficile de croire celui que l'on ne voit pas. Quand nous vient le désespoir, c'est vers lui qu'on tourne les yeux. Je ressens ton souffle, je ressens ton au-delà. Cette paix que tu me procures, elle me vient bien de toi. Je ressens
n'était qu'une marionnette entre les mains du prince de ce monde. Satan tremble, sa haine sans borne ne recule devant aucun moyen. Encore aujourd'hui, il veut empêcher l'œuvre de Dieu dans les cœurs. Il sait que la confrontation avec Jésus peut générer une nouvelle vie. Il fait tout pour vous mettre des bâtons dans les roues. Il est furieux de l'attention que vous portez à cette émission. Il voudrait que quelqu'un frappe à votre porte pour vous détourner. Il est prêt à inspirer quelqu'un de vos proches afin qu'il vous téléphone en ce moment même. Pour en revenir au plan du meurtrier inspirant le monarque Hérode, celui-ci a échoué. Car Jésus et ses parents, avertis par un ange, se sont enfuis et ont trouvé refuge en Égypte, accomplissant ainsi encore une prophétie de l'Ancien Testament. L'instigateur des basses œuvres a dû déchanter. Mais, ne s'avouant pas vaincu, il était là lorsque, à 30 ans, Jésus va démarrer son ministère public. La tentation au désert s'étant révélée inefficace, il a poussé les auditeurs du premier message de Jésus à la synagogue de Nazareth. Il les a poussés à le faire taire, parce qu'ils ne pouvaient supporter la vérité. Alors ils avaient décidé de le précipiter dans le vide où était bâtie leur ville de Nazareth. Nouvel échec. Mais sans arrêt, il reviendra à la charge, conduisant les contemporains du Christ à le faire souffrir sous des formes diverses. Quel fut le poids de souffrance de celui que l'Ancien Testament présentait comme l'homme de douleur habitué à la souffrance ?
Il s'est élevé comme une faible plante, un rejeton sur une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, ne faisant de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.
Homme de douleur habitué à la souffrance, quel genre de souffrance Jésus-Christ a-t-il connu ? Il y a eu l'incompréhension de ses semblables et même de sa famille, qui à un certain moment veulent l'arrêter pour le faire enfermer parce qu'ils pensent qu'il est insensé, qu'il est devenu fou. Pourquoi ? Parce qu'il ne prend même pas le temps de se nourrir tellement il est préoccupé par la faim spirituelle de ses auditeurs. Et puis, sa compassion si merveilleuse lui a arraché des larmes lorsqu'il s'est trouvé à proximité du sépulcre de son ami Lazare. Il est dit qu'il a pleuré. À d'autres occasions, il a pleuré sur la ville de Jérusalem, mais aussi dans le jardin de Gethsémané, parce qu'il était conscient du sort qu'on allait lui réserver. Et c'est pourquoi il avait demandé à ses amis de lutter avec lui dans la prière. Et puis, quelle souffrance atroce, lorsque sur la croix, suspendu sur deux poutres en forme de croix, comme une peau de bête sous le soleil d'Orient, après avoir été lapidé, flagellé, il est là crucifié. Et sa soif est terrible. Malgré cela, toute la vie de Jésus a été un témoignage constant à la vérité. Il était la vérité incarnée. Il n'a pas eu peur de se compromettre avec les gens de mauvaise vie, avec les pauvres. Il n'a pas craint de se dresser contre les chefs religieux les plus puissants. Il leur a dit, race de vipères, hypocrites, sépulcres blanchis, vous liez sur les épaules du peuple des fardeaux que vous ne pouvez pas porter. C'est une chose quand on parle de la vérité, c'en est une autre quand celle-ci s'exprime elle-même. La Bible, parole de Dieu, dont Christ est l'incarnation, vous retrace tout cela avec fidélité. Christ lui-même l'a dit, ta parole est la vérité. C'est parce qu'il était la vérité que, dans ce monde, toute vérité n'est pas bonne à dire, que les chefs religieux ont décidé de le faire taire. Ils se sont ligués avec le pouvoir civil et militaire pour le liquider. C'est pour cela que Pilate, dont l'épouse avait eu un songe venant de Dieu pour le prévenir de ne rien avoir à faire avec ce juste, c'est pour ça que Pilate avait voulu le libérer. Mais il fut lâche, matérialiste, orgueilleux. Ses intérêts humains furent plus forts. Il préférait son titre de gouverneur. Il préférait ses richesses à la vérité. C'est pourquoi, nous dit le texte, il le livra pour qu'il soit crucifié. Et Jésus continue à prouver qu'il est la vérité. Il dira à ses bourreaux, « Je suis le Fils de Dieu. » Sur la croix, alors qu'il est au comble de la douleur, dans un océan de souffrance, tant physique que morale et spirituelle, il s'écrie, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il le dit en araméen, « Eli, Eli, lama sabachthani. » Les hommes font semblant de ne pas avoir compris sa langue. Ils veulent nier la vérité. Ils raillent, il appelle Eli, « Voyons s'il viendra le délivrer. » Satan aveugle les hommes. Il ne veut pas qu'ils discernent, cloués sur la croix, non pas simplement un homme, mais Dieu, non pas un malfaiteur, un blasphémateur, mais la vérité. Cette vérité qu'il faut faire taire, cette vérité compatissante demandant à Dieu, « Père, pardonne-leur. » Mais cette vérité clouée au bois montre à nouveau qu'elle est venue sur terre exprès pour cette heure, qu'elle s'est livrée elle-même au moment voulu pour expier à la place des hommes, à ma place, à votre place, amis auditeurs. C'est pour cela que dans un grand cri de triomphe, il s'écriera avant de mourir, « Tout est accompli. » Aussitôt après, il peut cesser de résister contre les ombres de la mort et remettre son esprit entre les mains de son Père. Le centurion romain, devant cette mort exceptionnelle, confessera « Assurément, cet homme était fils de Dieu. Il reconnaît la vérité, il lui rend témoignage. »
« Assurément, cet homme est fils de Dieu. Je porte en moi la marque de ce crime, son cri vainqueur a dessillé mes yeux. Comment pourrais-je combler un tel abîme? J'en ai cloué des brigands sur leur croix. Tous m'insultaient, hurlant leur cri de haine. Parmi ce nombre, un seul pria pour moi. Sa mort horrible sur mes genoux me traîne. La terre tremble, mon cœur en tremble aussi. Le roc se fend, les tombes lâchent les corps. Ils ressuscitent, revenant de leur nuit, prouvant ainsi sa victoire sur la mort. Les spectateurs, atteints dans leur conscience, s'en vont chez eux, se frappant la poitrine, reconnaissant face au ciel leur démence. Ils sont coupables du plus morbide crime. Coupable comme eux, j'ai pleuré sur ma vie. Je ne peux plus porter ce lourd fardeau. Je lève les yeux et vers Jésus je crie: pardon Seigneur, pardon pour tous tes maux. Coupable comme eux, j'ai pleuré sur ma vie. Je ne peux plus porter ce lourd fardeau. Je lève les yeux et vers Jésus je crie: pardon Seigneur, pardon pour tous tes maux. 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 Pardon Seigneur, pardon.
Voulez-vous, amis auditeurs, demander aussi pardon en reconnaissant votre culpabilité comme ce centurion romain l'a reconnu? Reconnaître cela, c'est accepter comme la vérité tout ce que Jésus a dit. Il a dit que nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. Vous ne pouvez pas vivre dans la vérité que si vous venez à la vérité elle-même. La lumière ou la vérité est venue dans le monde et les hommes ne l'ont pas reçue, nous dit l'évangile de Jean au chapitre 3. Voulez-vous reconnaître votre condition de pécheur perdu? La corruption qui est en vous a causé la mort du seul homme sans péché. C'est à cause de notre culpabilité que la vérité suprême a dû se taire, être clouée au bois afin d'expier pour nous. Dieu savait ce qui attendait son Fils sur la terre. Jésus savait quel cas en ferait de lui et de son message de vérité. Et pourtant, il a accepté. Il a voulu venir parce qu'il fallait que toute la fausseté du genre humain, tous nos mensonges, notre haine, nos jalousies, notre égoïsme, soient expiés par la mort d'un juste, du juste, la mort de la vérité incarnée. Cette mort est semblable au grain de blé qui accepte d'être jeté en terre et de mourir pour permettre à des épis dorés de voir le jour. Ainsi, la mort de la vérité permet en tout homme qui en ressent le besoin la venue du Saint-Esprit, de cet esprit de vérité. Cet esprit parle à notre esprit lui disant: tu es enfant de Dieu, enfant de la vérité. Tu peux marcher en étant conduit par cet esprit. Celui-ci te poussera à lire la Bible, cette parole de vérité.
Salvatopod sur la RCEI. Le regard de Jésus avec Dany et Moïse Autrel. Notre dernière pause musicale avant la fin de l'émission. Bonne écoute à toutes et à tous.
Je ne savais pas ce qu'il est.
Salvatopod sur la RCEI, votre radio.
Every day, anywhere, anytime. The Digital Gospel Channel. Ebenezer International, your station.
Amis à l'écoute, c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Salvatopod, programme qui nous a permis d'écouter le pasteur Gérard Payon dans sa réflexion autour de la vérité. Et si ce programme vous a plu, si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, soyez libre de nous les envoyer par cette adresse email francradio@aol.com. Je répète, francradio@aol.com. Avant de partir, j'aimerais remercier tout d'abord le pasteur Payon pour sa collaboration avec ce ministère. Et nous prions pour que le Seigneur continue de l'encourager afin qu'il soit toujours une source de bénédiction, non seulement pour l'Église de Jésus-Christ, mais pour tous ceux qui auront à donner leur vie à ce Sauveur merveilleux un jour. Je voudrais remercier également les musiciens qui ont apporté leur contribution à la réalisation de ce programme. Tout d'abord, la société CDE, à qui nous devons notre générique, le musicien, compositeur et producteur James Vital, à qui nous devons ce beau morceau de la chorale Gospel Dream que vous avez écouté avec beaucoup de plaisir, l'artiste Patricia Andrian, que vous avez apprécié pour la première fois sur nos ondes, ainsi que Dani et Moïse Yotrel encore pour leur morceau Le regard de Jésus. Et à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices, qui étiez branchés depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie sincèrement de votre écoute et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Salvatopod avec le pasteur Gérard Payon. C'était pour vous servir au micro et à la réalisation, Franck Douristil, votre ami podcasteur, qui vous dit une fois de plus, merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et au revoir. C'était Salvatopod sur la RCEI, The Digital Gospel Channel, your station.
Authorize my soul. I know the storm is passing over.
Over.
Over.